des témoignages et de tout ce que tu voudras, Seigneur. Que ton nom soit hautement glorifié. Nous nous courbons devant toi et nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je voudrais commencer par vous donner une parole prophétique du Seigneur. Ce message m'a été donné dans l'avion en venant ici. Et il correspond à un besoin particulier qui a été souligné dans les chants de nouveau, qui ont été chantés. Il y a une harmonie dans tout ce qui se fait ici, c'est extraordinaire. Parce que moi, j'ai vu ça avant et vous, vous venez confirmer tout ça. Nous sommes dans le même esprit, c'est extraordinaire. Sans nous connaître, c'est bien le Seigneur. Et il a été question dans les chants que Dieu est un Père pour nous et que nous devons nous confier en lui. Et il est notre Père céleste. Il est aussi, et c'est ce que l'Église, je parle prophétiquement, devra découvrir davantage dans les temps qui viennent. Il y a de plus en plus de femmes seules à élever leurs enfants. Seules pour différentes raisons. Seules parce que peut-être veuves, seules parce que peut-être divorcées, celles peut-être parce qu'abandonnées par leur mari. Il y a beaucoup, beaucoup, et il y en aura de plus en plus, de femmes seules avec leurs enfants. Et le Seigneur a un message de consolation pour elles cet après-midi. Parce que vous savez, nous qui avons des époux à nos côtés, nous qui sommes mariés, nous serons appelés à aider ces personnes-là, à les entourer, parce qu'elles font aussi partie du corps de Christ, elles font aussi partie de l'Église de Dieu. Et nous devons avoir un cœur compatissant, un cœur de père pour ces femmes-là, qui souffrent une agonie pour certaines, parce que leur situation est humainement irréparable. Et elles ont beaucoup souffert. Il semble que le monde s'est écroulé sous leurs pieds, qu'elles ne savent plus de quel côté se tourner. Elles sont désespérées. Il y a un grand désespoir dans beaucoup de cœurs de femmes actuellement. Et vous savez, le Seigneur entend le cri, les cris qui montent vers lui. Le cri des orphelins, le cri des veuves, le cri des femmes seules, des innocents qui vivent des choses terribles. Le Seigneur entend ces cris. Il y a des cris qui montent vers lui. Le cri des enfants sacrifiés par l'avortement, par toutes sortes de choses. Il y a des cris qui montent vers Dieu. Et Dieu ne reste pas insensible à ces cris-là. Il a tout un programme pour ces gens-là. Et l'Église devra entrer de plus en plus dans ce programme du Seigneur et comprendre davantage et faire plus pour ces gens-là et les entourer davantage. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le ministère que tu vas nous confier. Dans ces temps de la fin, à nous, Église du Seigneur, que nous puissions être prêtes à accueillir des femmes qui s'ouvriront à nous et qui ont besoin de notre tendresse et de notre compassion. Nous ne pouvons pas vivre égoïstement. Moi, j'ai mon mari, tant pis pour les autres. Non, le Seigneur ne voit pas les choses comme ça. Le Seigneur veut que nous ayons un corps compatissant et que nous partagions nos familles, notre bonheur, notre communion fraternelle, avec des personnes qui sont seules, qui vivent une grande solitude, un abandon, un rejet. C'est terrible, vous savez, se sentir rejeté. Et si vous avez certainement côtoyé des femmes qui ont passé par le divorce, quel brisement, quelle souffrance. On ne passe pas par un divorce comme ça, haut la main. Je me suis séparée de lui, c'est tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Il reste des séquelles, il reste des souffrances. Si le Seigneur ne vient pas guérir ces choses-là, c'est très profond et personne ne peut rien faire. Mais le Seigneur a des paroles de consolation pour ces personnes-là cet après-midi. Et il veut que nous, qui avons des maris, les aidions aussi. Alors je voudrais qu'on lise dans Jérémie, chapitre 49, et Jérémie 49, verset 11. Jérémie 49, verset 11. « Laisse tes orphelins, je les ferai vivre. » Et que tes veuves se confient en moi. Et je vais vous dire une chose. Les personnes séparées, les personnes divorcées sont considérées par Dieu, qui ont connu le Seigneur après tout ça et qui se sont données au Seigneur, sont considérées comme des veuves par lui. Sont comme des veuves. Il agit avec elles comme des veuves. Pour l'instant, elles sont veuves. Alors le Seigneur leur parle ainsi, regardez, laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. C'est extraordinaire ce passage. Nous avons chanté un chant, confie-toi en ton Dieu. Confie-toi. Que les personnes qui sont seules pour une raison ou une autre puissent mettre leur espérance dans le Seigneur, comme la parole les exhorte. Que tes veuves se confient en toi. Le Seigneur est le Père des orphelins. Oh, cet après-midi, nous avons beaucoup chanté de chants sur le Père. Dieu est un Père pour nous. Eh bien, il est encore plus le Père des orphelins et des veuves, parce qu'elles sont seules. Et il prend soin d'elles d'une façon extraordinaire. C'est le psalmiste qui dit ça, que le Seigneur est le Père des orphelins et des veuves. Il sait, elle sait plutôt, la veuve, qu'il est son défenseur. Le Seigneur est le Père des orphelins et des veuves, et il est aussi le défenseur. C'est lui qui les défend. Elles n'ont pas de mari pour les défendre, pour les protéger. Elles n'ont plus de mari. Alors qui est-ce qui prend soin d'eux? C'est leur Père Céleste. Et elles ne sont pas privées, elles ont un privilège d'avoir Dieu comme Père. C'est un grand privilège. Alors toi, si tu es seule, considère que Dieu est un Père pour toi et qu'il prend soin de toi. Tu n'as pas de mari, mais le Seigneur prend soin de toi. Il est ton Père, il est ton défenseur. C'est lui qui prend ta défense quand quelque chose ne va pas. C'est lui qui te donne la sagesse quand tu en as besoin pour l'éducation de tes enfants. C'est lui ton conseiller. Il est tout pour toi. Il est tout ce qu'un mari pourrait être pour toi et même plus. Même plus. Et la Bible dit aussi dans le psaume 146 que Dieu, 146, on peut voir. Il faut lire ces passages, je pense que c'est bien de les lire. On va feuilleter un peu la Bible alors. Psaume 146, verset 9. Psaume 146, verset 9. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. Il est le soutien aussi de la veuve et de l'orphelin, le soutien. C'est-à-dire, si tu te sens seul, si tu n'as personne pour t'aider, pour te soutenir, pour t'encourager, il y a quelqu'un qui est là, à tes côtés, et qui veut te soutenir. Te soutenir quand il n'y a personne qui te soutient. Personne. Le Seigneur est ton soutien. Il est ton Père. Il est ton défenseur. Alléluia, Seigneur. Et ensuite, il y a un autre passage dans Proverbe 15, 25. Proverbe 15, verset 25. 25. Ah oui, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Que c'est étonnant. Il affermit les bornes de la veuve. C'est-à-dire que le Seigneur met des protections, des bornes, ou alors il met des bornes. Ça sert à quoi une borne? Ça sert à marcher sur un chemin et à indiquer par où passe le chemin. Alors, c'est le Seigneur qui indique à la veuve par où elle doit passer, qui l'aide à prendre ses décisions. C'est merveilleux, hein? Qui est-ce qui la conseille autrement? Son mari n'est plus là. Alors, le Seigneur est à borne. Il te conduit sur le chemin. Il te montre par où ça passe. Mais toi, il faut que tu restes bien près du Seigneur. Le Seigneur te conduira. Il te montrera par où passe ton chemin. Et il est dit aussi que le Seigneur ne fait pas de favoritisme, il ne reçoit pas de présents, il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il fait droit. Un passage qui dit, il fait droit à l'orphelin et à la veuve. C'est-à-dire que s'il y a une injustice qui se passe, le Seigneur, lui, défend la veuve et l'orphelin et prend sa cause en main, agit. Et donc, tu n'as pas à chercher à te défendre toi-même. Toi, garde le silence et laisse le Seigneur te justifier, laisse le Seigneur te défendre. Il est le meilleur des défenseurs. Mais si tu veux te défendre toi-même, tu peux, mais tu n'auras pas le Seigneur comme défenseur. Et tu te casseras la figure tôt ou tard, de toute façon. Ce sera terriblement difficile. Tu veux t'en sortir toi-même, mais le Seigneur veut que tu lui fasses confiance. Fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance plus qu'à aucun autre être humain. C'est à lui, en premier, que tu dois faire confiance. Voilà pour quelques paroles d'encouragement pour montrer comment Dieu voit une personne seule, qu'elle soit veuve ou divorcée ou seule, pour une raison ou une autre. Seule pour une raison ou une autre. Et le Seigneur prend soin de tes enfants. C'est merveilleux, hein? C'est lui qui devient l'éducateur, c'est lui qui devient le professeur, c'est lui qui devient le psychologue, tout ce que vous avez besoin de tes enfants. Alors, ne t'en fais pas, dépose le fardeau. Parce que c'est vrai qu'une femme seule, c'est difficile pour une femme seule de jouer au papa et à la maman, comme disent certaines. Hein. Il y en a certaines qui me disent, moi il faut que je fasse le père et la mère. Il n'y a pas de père, alors il faut que je sois le père et la mère. Ben non, tu n'as pas besoin de faire le père. Une bonne nouvelle pour toi. Tu as juste à être la mère. Le père, c'est Dieu, dans ce cas-là. Il le dit. C'est merveilleux, hein. Alors t'en fais pas. Fais-lui confiance, c'est lui le père. Et dans des cas bien particuliers où tu as besoin d'un conseil, le pasteur est là aussi pour servir d'intermédiaire, pour t'aider. Et l'église du Seigneur doit être là aussi pour jouer son rôle à l'égard. La parole de Dieu nous dit que nous devons prendre soin en tant qu'église de Dieu des veuves et des orphelins. C'est un ministère que l'église a et qu'elle doit accomplir. Et il y en a de plus en plus, comme je vous disais. Il y en a énormément partout, même chez les chrétiens, même dans les églises. Merci Seigneur de ce que tu as pourvu pour mes chères sœurs qui sont dans cet état-là et qui ont déjà le cœur brisé à cause de ce qui s'est passé, mais que tu consoles jour après jour, dont tu as fermé la vie jour après jour et le foyer jour après jour. Merci Seigneur, tu as une solution pour tous nos problèmes. Alléluia, toutes nos situations. Tu es toujours là au bon moment, Seigneur. Merci, merci, gloire à toi. Et un deuxième point maintenant. Le premier point, c'était, elle met son espérance, sa confiance en Dieu. Et voilà comment Dieu la voit et tout ce que Dieu fait pour elle, hein, c'est ce qu'on a vu là. Elle met sa confiance en Dieu et Dieu fait toutes ces choses. Il est son défenseur, son avocat, il fait droit pour elle, il a fermé sa maison, il met des bornes sur sa route pour lui indiquer le chemin. C'est beau, hein? C'est très beau. Et deuxième point, le Seigneur appelle la femme seule à venir se réjouir dans sa maison, dans son temple. Il l'appelle, viens dans ma maison, viens me rencontrer. Je suis ton père, je suis ton défenseur. Il faut que tu viennes me rencontrer, ne reste pas chez toi. Viens, viens dans ma maison. On va lire dans Deutéronome 16, 11, il y a aussi un passage merveilleux. C'est bien de lire ces passages, parce que c'est des passages qu'on ne lit pas souvent. Hein. Deutéronome 16, verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite. Le Lévite, c'est celui qui dirige la louange dans le peuple de Dieu. Le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront au milieu de toi. Voilà. Tu te réjouiras devant l'Éternel, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Alors le Seigneur appelle les veuves, les orphelins, à venir se réjouir dans la maison du Seigneur. Je me réjouis quand on me dit « montons à la maison de l'Éternel ». C'est valable pour nous toutes, ça. Mais spécialement pour ces dames-là. Spécialement. Oh, merci Seigneur, pour ta maison, dans laquelle nous nous sentons si à l'aise, parce que tu es là, et tu nous y rencontres, et tu nous y convies, et tu nous y donnes un rendez-vous. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Alléluia. Dans l'Église, le Seigneur se servira de ses enfants. Voilà le rôle de l'Église. Le Seigneur se servira de nous toutes, là, de ses enfants, pour remplir le cœur de la veuve de joie. Je n'avais jamais vu ce passage, moi. C'est extraordinaire. Job 29. Il y a vraiment de tout hein, dans la parole de Dieu. On est étonné de découvrir la richesse. Job 29, versets 12 à 13. Car je sauvais, c'est Job qui parle. Et il dit, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. C'est Job qui parle. Je remplissais son cœur, le cœur de la veuve de joie. Et c'est notre rôle, à nous chrétiennes, à nous femmes mariées, de remplir le cœur de ces femmes-là de joie, d'être une joie pour elles, de leur communiquer la joie du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Quel merveilleux ministère le Seigneur nous a donné là aussi. Hein? Et il faut qu'on soit fidèles. Et je trouve, pour ma part, qu'il y a beaucoup de négligence dans les églises, à ce niveau-là, de négligence. On ne fait pas assez pour ces femmes-là. On ne fait pas assez. On ne s'occupe pas assez d'elles. Et le Seigneur voudrait nous exhorter à être plus fidèles, à avoir un cœur compatissant pour ces personnes-là. Un troisième point, le Seigneur veut utiliser la veuve dans l'Église. Le Seigneur veut utiliser la veuve. Il veut utiliser chacune de nous, évidemment. On peut prendre chacun pour soi. Mais il veut utiliser la veuve, la femme seule, veut l'utiliser dans l'Église. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Roi 17, 9. 1 Roi, chapitre 17, verset 9. On va commencer à lire, on va lire des extraits, là, parce que c'est une trop longue histoire. C'est l'histoire du prophète Élie, qui était dans le besoin. Et il a été envoyé par Dieu à Sarepta. Et Dieu dit, voici, au verset 8, 9, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Une femme veuve de te nourrir. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, le prophète, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ma main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et le prophète Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Le Seigneur demande à la veuve de préparer d'abord, de se donner d'abord au Seigneur, de pourvoir d'abord aux besoins de ses serviteurs, d'autres chrétiens que le Seigneur placera sur sa route ou d'autres personnes pour ensuite pourvoir à ses besoins. Donne et il te sera donné. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La veuve doit l'apprendre aussi, comme nous toutes devons l'apprendre. Alors, vous avez vu, elle a fait ce que le prophète a dit, après on pourrait lire la suite, elle a fait ce que le prophète a dit, elle a pris ses petits restes et elle les a donnés. Et combien le Seigneur l'a bénie. Parce qu'après, son enfant est mort et le Seigneur a utilisé le prophète pour rendre la vie à son enfant. Pas une petite affaire. C'est beau, hein, de voir. C'est magnifique. Ce que le Seigneur peut faire quand on lui donne ce qu'il nous a donné. Et là, je voudrais juste faire une petite parenthèse, ça me revient maintenant. Une expérience que nous avons faite nous-mêmes avec mon mari. Quand nous étions missionnaires en Afrique, ou tout au début de notre vie chrétienne, dans les années 70, nous étions en Afrique et nous n'étions pas bien soutenus financièrement par la mission qui nous envoyait. Elle pourvoyait tout juste à manger, c'est tout. Le reste des faux frais, il fallait qu'on vive par la foi. Et voilà qu'il nous était arrivé quelque chose, c'est que la poste était bloquée à cause des grèves en France. Et donc, impossibilité de recevoir de l'argent en Afrique à ce moment-là. Et nous avions deux petites filles, deux bébés à ce moment-là. Et le Seigneur, vous allez voir comme le Seigneur est merveilleux. Alors, à un moment donné, il y a un Africain qui vient frapper à notre porte. et qui dit « J'ai faim ». Et nous avions comme principe, en tant que missionnaires, de toujours donner à manger. Toujours. Quand nous avions, toujours, enfin, ce que nous avions, nous donnions toujours, ou bien des vêtements, ou de la nourriture. Jamais d'argent, par exemple, parce qu'on savait qu'ils allaient le boire, sinon, ou le dépenser bêtement. Alors, pas d'argent, mais par contre, de la nourriture, des vêtements, toujours. Et ils le savaient, qu'ils pouvaient venir quand ils avaient faim. Alors, il y a un Africain qui arrive. « Madame, j'ai faim ». Et puis, on s'est regardé avec mon mari parce que tout ce qui nous restait, c'était un bout de pain comme ça. Puis on était quatre. Hein. Il y avait deux petites filles qui criaient famine quand elles avaient faim. Un bout de pain comme ça et puis quelques bananes. Et c'est tout ce qui nous restait et pas d'argent parce que l'argent était bloqué en France. Et cet homme qui vient nous demander, j'ai faim. Alors on s'est regardé avec mon mari, on a dit on lui donne. Et puis on a décidé de lui donner. Par la foi. Ça, je crois que c'est le point extrême dans lequel le Seigneur nous a mis, au niveau matériel, cette fois-là. Et il a permis cela, pour nous montrer sa gloire. Et nous avons donné le pain, les bananes, tout ce qui nous restait. On a dit maintenant, Seigneur, à toi d'agir, nous comptons sur toi. Et on avait deux petites qui criaient famine, hein, ça, quand elles avaient faim, elles n'attendaient pas qu'on ait de l'argent ou du pain pour crier famine. Et vous savez pas ce qui s'est passé? Le Seigneur est merveilleux. Un quart d'heure plus tard, un Africain qui arrive avec un grand panier, comme ça, je vous dis, je ne mens pas, grand, comme ça, avec poulet, bananes, des œufs, du pain, de quoi vivre plusieurs jours. Et je vous dirais que c'est la seule fois que ça nous est arrivé, parce que jamais des Africains ne donnent de la nourriture à un missionnaire. C'est toujours le missionnaire qui donne à l'Africain. Ça, c'est un principe, quoi. C'est un principe parce qu'ils pensent que nous, on a de l'argent en abondance, des biens en abondance. Ils sont en disant, bien sûr, on en a plus qu'eux, c'est vrai. C'est vrai. Mais juste pour dire, un quart d'heure après, une corbeille pleine. Nous n'avons plus jamais revu cet Africain. Peut-être était-ce un ange, je ne sais pas. Pourquoi pas? Il a dit que, la Bible dit que nous avons pu héberger des anges sans le savoir. Ça existe? Ça existe. En tout cas, cette fois-là, ça a été merveilleux. Comme le Seigneur, c'est pour vous encourager à donner, et il vous sera donné. À faire confiance au Seigneur. Et il a toujours pourvu à tous nos besoins. Ça fait 30 ans qu'avec mon mari, nous marchons, plus de 30 ans que nous marchons par la foi. Et parce que les missionnaires français, enfin ça dépend de la mission qui nous vous envoie, mais les missionnaires français, il y en a beaucoup qui apprennent à vivre par la foi parce que les missions ne sont pas très riches, elles ne peuvent pas beaucoup soutenir et donc on est obligé, si on veut partir, de vivre par la foi. Mais il y a beaucoup de missionnaires aussi d'autres pays qui ne connaissent pas cette vie-là du tout. Mais je peux vous dire par expérience que le Seigneur a toujours pourvu et que nos enfants ont pu avoir une éducation, des études universitaires et des études aux États-Unis où c'est si cher. Pour nous, c'est impossible. Et des choses que nous n'aurions jamais pu leur payer. Tout simplement parce que qui? Dieu est notre Père. Et quand Dieu est notre Père, je vous assure qu'on n'a rien à craindre. Alléluia! Ça, je pourrais vous raconter plein d'histoires de ce genre-là. Comment Dieu est fidèle à tous nos besoins. Alors, tu vois, toi qui es seule, la femme seule ici, a nourri le prophète. Elle a donné ce qu'elle avait. Et puis, à elle aussi, il ne lui restait pas grand-chose. Hein? Un peu de farine, un peu d'huile dans un pot pour faire une galette et après on allait mourir, elle a dit. Eh bien, elle a donné ça. Un peu comme nous là, hein? Un peu pareil. Et puis après, regardez la bénédiction. Son fils est ressuscité. Quelle force! Quelle bénédiction! Et elle a eu pendant longtemps de quoi manger, il est dit, dans la suite du texte. Pendant longtemps. Comme nous, hein, plusieurs jours. Plusieurs jours. Voilà. Alors le Seigneur veut utiliser la veuve dans l'Église. La veuve, non seulement... L'Église doit prendre soin de la veuve, les chrétiens doivent prendre soin de la veuve, mais la veuve est appelée à être une bénédiction dans l'Église. C'est ce que le Seigneur veut. Quatrième point, le Seigneur donne aux veuves un cœur compatissant. Elles ont un cœur extrêmement compatissant. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu le cœur brisé par la souffrance, par le rejet, par l'abandon, C'est terrible de vivre ce qu'elles ont dû vivre, c'est terrible. Elles ont beaucoup souffert, et c'est la raison pour laquelle ces femmes-là comprennent beaucoup la souffrance des autres. Elles ont un cœur sensible. Et c'est la raison pour laquelle ces femmes-là comprennent beaucoup la souffrance des autres. Elles ont un cœur sensible. Peut-être plus sensible que le nôtre. C'est pour ça que nous, en tant que nos époux, le Seigneur nous fait passer aussi par certaines souffrances pour que nous comprenions les autres. Il n'y a rien à faire, il y a une certaine souffrance que nous ne comprendrons jamais si nous n'y sommes pas passés. Il n'y a que cette façon-là pour nous de comprendre. Le Seigneur le sait, nous sommes humains. Et nous sommes parfois incapables de comprendre la souffrance des autres. Alors le Seigneur nous fait passer par certains chemins pour nous faire voir ce que ça fait un peu que de passer par là. Mais merci Seigneur, il nous donne toujours la force. Merci Seigneur pour le cœur compatissant que tu donnes à ces dames qui sont une grande bénédiction pour nous. Elles nous comprennent quand nous passons par l'épreuve. Dieu leur a donné un cœur compatissant. Et Dieu leur a donné un cœur compatissant, et elles connaissent celui qui console. Elles connaissent celui qui console, parce qu'elles l'ont expérimenté, elles l'ont vécu dans leur propre vie. Le Seigneur les a consolées, et maintenant elles sont en mesure de consoler les autres, comme peut-être personne. Ça, elles ont quelque chose. Vous voyez, le ministère que Dieu peut donner à des femmes seules dans l'Église, c'est extraordinaire. Comment le Seigneur peut les utiliser? Elles connaissent le Saint-Esprit, le Consolateur, qui a fait son œuvre dans leur cœur. Cinquième point, le Seigneur appelle les veuves ou les femmes seules à devenir des femmes de prière dans l'Église, et même en général. Dans 1 Timothée 5:5, on va lire ça, parce que c'est un passage important. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu, on y revient, et quoi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. C'est marqué. On l'oublie aussi ça, souvent. Celle qui est véritablement veuve et qui est seule, persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. C'est merveilleux. Le Seigneur veut vous utiliser à prier pour les autres. Il veut vous mettre des fardeaux de prière. Une fois que vous êtes consolé, que vous faites confiance au Seigneur, que vous marchez avec lui, alors à ce moment-là, vous êtes utile pour le Seigneur, parce qu'il a fait tant de choses dans votre cœur, tant de choses que maintenant, il veut vous utiliser pour les autres. Et c'est la plus grande consolation, celle-là. C'est d'être en mesure d'être utilisé par Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors prenez du temps pour la prière. Vous qui êtes seul, prenez du temps. Le Seigneur peut vous donner des fardeaux de prière qu'il ne peut pas donner à d'autres personnes. À vous spécialement. Comprenez? Parce que vous, il vous a donné un cœur qui vibre autrement que celui des autres, à cause de la souffrance par laquelle vous êtes passé. Et le Seigneur veut vous donner des fardeaux de prière pour des serviteurs de Dieu, pour des inconvertis, pour des familles. Il demande une grande disponibilité, une grande obéissance. Tout un programme. Au lieu de vous apitoyer sur votre cas, de pleurer, de gémir, et de vous complaire dans ces gémissements, laissez-vous utiliser par Dieu. Dans le ministère qu'il vous confie à vous personnellement, femme seule, dans l'Église. Et nous qui sommes autrement, nous pouvons les encourager dans ce ministère-là. Les encourager. Alléluia, Seigneur. Sixième point, le Seigneur les appelle à s'éloigner des convoitises et des plaisirs du monde. S'éloigner. Non pas par désespoir aller se vautrer dans ce milieu-là. Par désespoir, je dis bien, et ça pourrait se comprendre. Alors, on va lire 1 Timothée 5, verset 6, là. 1 Timothée 5, verset 6. Mais il s'agit de la veuve. Honore les veuves. Voilà ce que la Bible demande à l'Église. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. si on peut lire au verset 3, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs, regardez, la veuve toujours, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Voilà comment Dieu considère quelqu'un qui, par désespoir, va se vautrer dans les plaisirs du monde et dans les convoitises du monde pour trouver une consolation. Ce n'est pas là que tu dois trouver ta consolation. Tu dois la trouver dans l'Église, auprès du Seigneur. Et c'est seulement lui qui pourra te consoler. C'est seulement lui qui pourra faire toute chose nouvelle dans ta vie. Ce n'est vraiment pas la solution d'aller se vautrer là-bas. Hein? Pas du tout, pas du tout. Et il veut que les femmes seules aient devant lui et devant les hommes, une vie irréprochable. Irréprochable. Il les appelle à avoir un témoignage percutant qui aide ceux qui souffrent à mettre à leur tour leur confiance en Dieu. C'est beau, hein? Quel programme! Déclare-leur ces choses, il est dit, afin qu'elles soient irréprochables, a dit Paul à Timothée. Irréprochables. Hein? Vous dites, c'est peut-être impossible, mais avec le Seigneur, c'est possible. Seulement avec le Seigneur. Maintenant, le septième point, c'est 1 Timothée 5, 10, verset 10. C'est toujours au sujet de la veuve. Verset 10. Qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants. Le Seigneur appelle les femmes seules à bien élever leurs enfants, à s'appliquer. Et à être une bonne maman pour leurs enfants. Parce que leurs enfants vivent des choses difficiles, ils n'ont pas de père terrestre, alors quelque part, jusqu'à ce qu'ils comprennent que Dieu est leur père sur cette terre, eh bien, à vous de leur montrer l'exemple. Leur montrer que vous adressez à quelqu'un, au Père Céleste, qui pourvoit à vos besoins, vous leur donnez l'exemple. Dieu vous demande d'être un exemple pour vos enfants et de bien élever vos enfants dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu. Un huitième point, le Seigneur appelle les veuves à exercer l'hospitalité. Ben, c'est juste dans le même passage. Donc, qu'elles soient appliquées à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité. Vous pouvez recevoir chez vous, et c'est une bénédiction de recevoir chez vous, ceux que le Seigneur place sur votre route. Regardez la veuve de Sarepta qui a reçu le prophète Élie. Quelle bénédiction ça a été dans sa maison, d'avoir un homme de Dieu dans sa maison. Vous pouvez ouvrir votre maison, et ce serait, je vais vous dire, par expérience, dans tous les contacts que nous avons eus avec mon mari, avec des veuves ou des femmes seules, celles qui ouvrent leur maison ont une bénédiction particulière avec leurs enfants. Je vous dirais que la présence d'hommes de Dieu dans leur maison est une bénédiction pour leurs enfants. Spéciale. Spéciale. Ça, c'est l'expérience, c'est les fêtes qui prouvent ça. Ça, on l'a vu, disons. On l'a vu. C'est extraordinaire parce que les enfants de la veuve reçoivent quelque chose de l'homme de Dieu qui passe chez elle. C'est une grande bénédiction. Donc, si tu ouvres ta maison, tu n'en seras que béni. Si tu exerces l'hospitalité, eh bien, tu n'en seras que béni et tes enfants avec toi. Apprends aussi à laver les pieds des saints, à secourir les malheureux, à pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Regardez, c'est toujours là. Exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Quel programme, hein? Ha! Quel programme elles ont! C'est extraordinaire. Le Seigneur vous appelle à être disponible pour écouter, pour consoler, pour exhorter, pour encourager, pour secourir les malheureux et aussi aider dans l'Église selon les besoins. Le Seigneur peut mettre sur votre route des personnes qui sont dans le besoin et vous devez avoir un cœur et une maison ouverte. C'est ce que le Seigneur vous demande, d'après les Écritures. Et ce sera une grande, grande, grande bénédiction dont vous ne pourrez même pas mesurer la portée. Faites ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Faites-le par obéissance à ce que la parole de Dieu vous a dit. Si vous avez relevé tous ces passages, vous pouvez les repasser dans votre cœur et puis les appliquer dans votre vie. Les personnes seules ou les veuves peuvent être une grande bénédiction, un instrument utile et efficace entre les mains de Dieu et une aide appréciée dans l'œuvre de Dieu. Puissiez-vous découvrir toutes les richesses que Dieu a mises entre vos mains. Pas vous lamenter, pas pleurer. Levez vos têtes. Il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. Quelqu'un qui attend quelque chose de vous. Quelqu'un qui vous donnera la consolation, le conseil, qui vous orientera dans votre vie, qui vous défendra en cas de besoin. C'est formidable. Et je crois que nous, qui ne sommes pas dans ce cas-là, nous pouvons aussi aider ces personnes-là à découvrir le programme que Dieu a pour elles et à prier pour elles, à les aider à découvrir ce que Dieu veut d'elles. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier, je voudrais qu'on prie pour ces personnes-là. D'abord, parce que le Seigneur est présent et il veut particulièrement redonner un nouveau départ à ces personnes-là. Si vous êtes une personne seule, Dieu, votre Père, est là présent et vient de vous parler et de vous montrer ce qu'il attend de vous, de vous donner, brosser tout un programme. Eh bien, le Seigneur veut bénir ces personnes-là particulièrement. S'il y en a au milieu de nous, je leur demanderai de venir devant. Et nous allons commencer par prier pour ces personnes-là. Alléluia.
Yeah.